plaisir de vous voir ce mois de mai. On sera beaucoup présents, enfin on est beaucoup présents. Mais ce matin, eh bien, on va parler de l'obligation à l'adoration, l'argent à la lumière de la grâce. C'est la suite de cette série de messages aussi sur les offrandes. La dernière fois, j'avais prêché sur le jour du repos. Si vous voulez écouter le premier tome, enfin le premier message, c'était le 22 mars. J'avais un petit peu abordé ce thème le 19 avril avec le jour du repos. Le thème de l'argent dans l'Église est souvent aussi un sujet sensible, comme je l'avais déjà dit, mal compris, on est parfois mal à l'aise pour en parler, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, de pression, de choses qui ont été faites là-dessus. On connaît tous aussi ce dicton « l'argent est le nerf de la guerre ». Alors on n'ose plus trop le dire aujourd'hui parce que la guerre, il y en a bien trop dans ce bas monde et on s'en passerait bien. En tout cas, on est aussi de plus en plus au courant vu que tout est très 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 médiatisé. Mais l'Église ne peut pas prétendre fonctionner sans dans ce monde en se désintéressant de cette question, c'est aussi important. Et les serviteurs de Dieu se déplacent, ont des frais, doivent manger. Les églises aussi acquièrent des locaux, louent des locaux. Enfin, il y a aussi certains frais d'électricité et autres. On est dans un monde qui matériel où il y a besoin. Et la Bible parle aussi souvent d'argent parce que l'argent révèle notre cœur. Ce n'est pas forcément un thème tabou si vous lisez la Bible. On estime qu'il y a plus de 2000 versets de la Bible qui parlent directement d'argent, de richesse, de biens matériels, de gestion financière, de générosité, de l'avarice aussi, etc. Donc la question d'argent est assez abordée dans la Bible s'il y a plus de 2000 versets qui en parlent. La question de savoir aussi, et on en vient rapidement là-dessus, la question de savoir si les chrétiens doivent donner la dîme de leurs revenus à l'Église a souvent aussi donné lieu à des débats soutenus. On se dit, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, enfin, on est assez mal à l'aise pour parler de ce thème. Et pour répondre à ça, il faudrait répondre à la question de savoir si les chrétiens de l'Église primitive aussi donnaient la dîme. Et on va le voir, est-ce que c'est juste une question de l'Ancien Testament ou aussi dans le Nouveau Testament, on voit des choses, il y a des pistes de réflexion. Une chose est certaine, c'est que dans le Nouveau Testament, Jésus parle très souvent des richesses. Environ 40% de ses paraboles concernent l'argent et la possession, les choses matérielles. Et le vrai enjeu n'est pas financier, mais je crois spirituel. Qui est notre maître? Qui est celui qui nous dirige? Qui est celui qui nous gouverne? Est-ce que c'est l'argent? J'ai souvent vu dans les églises, on loue Dieu en chantant langue, on prie, on est très spirituel. Et des fois, dans des assemblées générales, ça devient des fois un combat de boxe dès qu'on parle de l'argent. Enfin, un combat de boxe, c'est une illustration. On voit que des gens très spirituels et autres, tout à coup, dès qu'on parle de l'argent, ça crispe. Il y a quelque chose, c'est quelque chose, on a tous une relation différente avec ce thème-là et on voit que c'est quelque chose qui polarise parfois, qui est difficile à parler. Dans Genèse 14, Abraham donne la dîme à un personnage énigmatique, Melchisédek, prêtre du Dieu Très-Haut, pour reconnaître que tout vient de Dieu. La dîme est un signe là de loyauté envers Dieu et ce récit se passe environ 430 ans ou même plus avant la loi de Moïse sur la dîme, où Moïse va parler de la dîme. Et selon la façon dont on calcule les périodes bibliques, c'est plus ou moins cette période-là. Donc bien avant Moïse, on voit déjà ce thème apporté. J'aimerais rappeler que la vision avec Jésus-Christ de la dîme change. Sous la loi, on donnait pour être béni. Sous la grâce, on donne parce qu'on est déjà béni. Et ça change notre focus. Ça change notre façon de voir. Jésus déclare dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 21. Donc Jésus déclare dans Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Dieu est propriétaire et nous sommes les intendants. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donner ne va pas enrichir Dieu. Il a tout, il possède tout. Mais donner va transformer notre cœur, va transformer nos cœurs. Ça nous coûte parfois. Et c'est quelque chose, on se dit, mais on a travaillé, on a mérité. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Quand Dieu est premier, l'argent retrouve sa place, un outil au service du royaume de Dieu. Ce n'est pas autre chose. La dîme et les offrandes, ce n'est pas d'abord une question économique, c'est une question spirituelle finalement. Alors revenons à ce que j'avais annoncé au mois de mars, c'est-à-dire le parallèle entre le Nouveau Testament et Malachie 3, 6 à 12. On va relire ce texte, Malachie 3, 6 à 12. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices. » dit l'Éternel, le maître de l'univers. Alors le contexte de ce livre de Malachie, ce texte, le contexte historique, on est là après l'exil à Babylone, en Irak, vers 450 à 430 avant Jésus-Christ, le temple a été reconstruit, il avait été détruit, les sacrifices ont repris, mais l'enthousiasme spirituel n'était plus vraiment là. Il n'y avait plus, on accomplissait des rites, mais sans vraiment y mettre son cœur. L'enthousiasme était retombé. Le peuple est revenu dans le pays avec de grandes attentes, mais la réalité est difficile. Il y a de la pauvreté, il y a de l'instabilité économique, il y a la domination du peuple perse, aussi l'Iran notamment, découragement spirituel aussi. La ferveur du début a laissé place à la routine et à la tiédeur. Là aussi, ça nous guette, Église de Bienne, ça nous guette, cette ferveur. On y vient, mais on n'y trouve plus vraiment un goût. La ferveur du début a laissé place à la routine et à la tiédeur. Ça, c'est le contexte historique, mais le contexte spirituel. Le livre de Malachie est construit comme un dialogue entre Dieu et le peuple. C'est intéressant, ce texte que je vous ai lu, et tout le livre, Dieu affirme quelque chose, et le peuple répond en quoi ? C'est affiché, en quoi ? Verset 7, verset 8. En quoi ? Dans le chapitre 3, Dieu dit « Revenez à moi ». Et le peuple répond « En quoi devons-nous revenir ?» On pourrait se dire aussi, nous, « En quoi devons-nous revenir finalement ?» Et Dieu répond, curieusement, au verset 8, « Dans les dîmes et les offrandes. » Waouh ! Surprenant, hein ? Et pourtant, on pourrait se dire, ils devraient revenir au niveau de leur attachement de cœur. La louange, l'adoration. Le problème, il n'est pas financier. Comme j'ai dit, Dieu ne manque pas d'argent. Le problème, c'est l'infidélité du cœur. Les prêtres sont négligents. Les sacrifices sont de mauvaise qualité. La justice sociale est totalement affaiblie et le peuple retient ce qui appartenait à Dieu selon l'alliance de Moïse. Israël vivait sous la loi de Moïse dans cette alliance et l'obéissance entraînait la bénédiction. La désobéissance entraînait la malédiction. Vous pouvez lire ça dans Deutéronome 28. Quand Dieu parle de malédiction dans Malachie 3, il ne parle pas d'une émotion que Dieu aurait, mais des conséquences prévues par l'alliance. parce qu'il s'était détourné. La dîme, ce n'était pas un don libre comme aujourd'hui, c'est une obligation légale destinée à soutenir les Lévites, à assumer le culte et à aider les pauvres. Et en la retenant, la nation rompait sa loyauté envers Dieu. Dieu avait donné des ordres pour qu'il y ait une justice sociale. Le cœur du message et le verset clé, c'est le verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Et aujourd'hui encore, Dieu nous adresse « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Malgré l'infidélité du peuple, Dieu reste fidèle, il ne cherche pas d'abord l'argent, il appelle au retour. « Revenez à moi et je reviendrai à vous » au verset 7. « Revenez à moi ». L'appel est relationnel avant d'être financier. Ce que Dieu veut, c'est une relation. Et de cette relation découle une adoration, découle aussi une générosité. Malachie 3, 6, 12, c'est un appel à un peuple découragé, devenu indépendant, à restaurer son alliance avec Dieu, à lui faire confiance. La dîme, c'est le symptôme visible d'un cœur éloigné. Le message central, ce n'est pas donner pour être béni, mais revenez à moi et je restaurerai votre vie. Beaucoup l'utilisent pour parler d'argent. Mais regardons-le à la lumière du Nouveau Testament, comme j'ai dit tout à l'heure. La dîme et les offrandes ne sont pas d'abord économiques, mais je crois sincèrement que c'est quelque chose de très spirituel. Très spirituel parce que, comme je vous ai dit en introduction, aussi lorsqu'on parle d'argent souvent, dans un conseil, dans une AG, dans un truc, on a tous tellement une vision différente que souvent ça crispe, ça tend les relations. Il y a comme de la zizanie ou de la friture sur la ligne. Ce n'est pas une affaire de budget, c'est une affaire de soumission. Et Dieu ne cherche pas des donateurs, il cherche des adorateurs, également avec notre porte-monnaie. Alors je vais voir courtement, rassurez-vous, 6 points. 6 petits points, ce ne sera pas des longs points. Vous pourrez manger à midi et fêter toutes les mamans et voilà, les grands-mamans et autres. Déjà, mon premier point, c'est dans Malachie, c'est le symptôme aussi d'un cœur éloigné. Dans le livre de Malachie, Dieu parle à un peuple revenu d'exil. Le temple est reconstruit, comme j'ai dit, mais la ferveur est retombée. Et Dieu dit « Revenez à moi, revenez à moi ». Et aujourd'hui, je crois que Dieu m'adresse, Dieu vous adresse, Dieu nous adresse cette interpellation « Revenez à moi ». La dîme, ce n'est pas le problème majeur, même si Dieu dit « quand ils disent « Mais en quoi t'avons-nous trompé ?» et que Dieu dit « Dans les dîmes et les offrandes », ce n'est pas le problème majeur. Comme j'ai dit, Dieu n'a pas besoin de notre argent. L'indépendance est plutôt le problème. Sous la loi, l'obéissance amenait la bénédiction, la désobéissance amenait la malédiction. Et la dîme était un signe d'alliance nationale. Deuxième chose, la croix va tout changer. Avec Jésus, l'alliance change. Sous la loi, c'est donne pour être béni. Sous la grâce, tu es béni, alors donne. La malédiction évoquée dans Malachie a été portée à la croix. Le ciel n'attend plus un pourcentage. C'est plus un pourcentage, c'est plus valable pour aujourd'hui. C'est plus un pourcentage qu'il faut donner, au risque de vous choquer, pour ceux qui sont accros à la dîme, comme ça, en disant il faut au centime près donner la dîme. Si tu reçois 4397, ben tu vas donner 9,7. Centimes. Non, c'est pas ça. C'est très bien de garder des choses, mais dans le Nouveau Testament, c'est plus ça. Et on va le voir. On va le voir. Tu es béni, alors donne. Et le ciel n'attend plus un pourcentage, il attend notre cœur. Notre cœur. Jésus dit dans l'Évangile, selon Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et l'argent révèle finalement qui est sur le trône. On a chanté que Dieu est notre roi, qu'il règne, etc. Et la générosité sous la grâce, dans 2 Corinthiens 9, « Dieu aime celui qui donne avec joie. » 2 Corinthiens 9, 7. Il n'est plus question de pourcentage, il est question de générosité. Dieu aime celui qui donne avec joie. Waouh ! Sous la grâce, plus de contraintes, plus la peur parce qu'au centime près, on n'aurait pas donné un certain pourcentage, plus de pression religieuse. Mais vraiment une générosité inspirée par l'amour. Regardons un petit peu l'exemple, parce que c'est quand même bien de s'inspirer dans les actes des apôtres, notamment. Alors là, ça va changer. Hein. On voit une dynamique de la Nouvelle Alliance. Acte 2, 44 et suivant. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ouh là là. Ouh là là. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Waouh ! Là, ça change. Acte 4, 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. C'est dans le Nouveau Testament, hein ? Jésus était déjà glorifié, verset 33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient à portée le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Waouh ! Alors on va voir, enfin on va pas tout pouvoir voir évidemment en une prédication, si on regarde aussi les lettres de Paul après, ça se passait plus tout à fait comme ça, mais quand même, pour faire la balance entre ce que j'ai dit tout à l'heure et aussi le début de la naissance de l'Église, les croyants avaient tout en commun. Ils venaient en aide aux nécessiteux, ils vendaient volontairement leurs biens. Et il est écrit, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Résultat, personne ne manquait de rien. La faveur de Dieu reposait sur eux, nous dit le texte aussi. Et l'Évangile avançait avec puissance, l'Église croissait, croissait, croissait. Incroyable. Ce n'était pas une obligation, c'était une réponse à la grâce. Alors il y a vraiment un contraste puissant dans les actes des apôtres. L'Église donnait librement. Et le résultat, la puissance de Dieu se manifestait. Il ne donnait pas par obligation, mais parce que la grâce avait transformé leur cœur et parce que le Saint-Esprit avait touché toute leur vie. Toute leur vie, c'est également cet aspect financier. Ils mettaient leurs biens en commun, ils soutenaient les nécessiteux, personne ne manquait de rien, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. On a envie de voir aussi que le Seigneur ajoute à cette Église et aux Églises de toute la Suisse, du monde entier, eh bien, ajoute ceux qui sont sauvés aussi. C'est le même Dieu entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, mais il y a deux dynamiques. Sous la loi, l'obligation maintenait le système. Pour faire fonctionner le système, il y avait cette loi, la dîme de tout. Sous la grâce, la transformation intérieure libérait la générosité. Et dans Malachie, on retient, ils retenaient les gens, ils donnaient plus tout, ils gardaient pour eux, et le culte s'affaiblissait. Sous la grâce, la transformation intérieure libérait la générosité. Dans les actes, on donne et la puissance se manifeste. Amen. Ce n'est pas une question de pourcentage, c'est une question de cœur. Cinquième point, ça va vite, hein. On pourrait les développer aussi, hein. C'est un amuse-bouche. Le don de libéralité, eh bien, c'est aussi une onction. C'est aussi le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas inné. Comme les dons, c'est dit, aspirer aux dons les meilleurs. Donc on a besoin aussi de demander à Dieu qui touche tous les aspects de notre vie. On aime bien voir des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. On prie, on a envie d'en voir plus. mais la Bible parle aussi du don de générosité. Dans Romains 12, Paul parle des dons spirituels et il dit que celui qui donne le fasse avec générosité ou simplicité, suivant, ce mot peut être compris de deux manières. Cela signifie que la générosité peut aussi être un don spirituel. C'est pas inné en nous. Certaines personnes ont une grâce particulière pour financer des œuvres, soutenir des missions, donner avec foi et joie. Sous la loi, la dîme, comme je l'ai dit, maintenait le système. Sous la grâce, la libéralité manifeste aussi la vie de l'esprit. Toute la vie de l'esprit. Il n'y a pas que les prophéties, il n'y a pas que ces choses-là. Mais il y a aussi, c'est plus une obligation, c'est une onction. Alors, l'argent, est-ce que c'est un serviteur ou c'est un maître ? L'argent n'est pas mauvais en soi, les richesses ne sont pas mauvaises en soi, mais il devient dangereux s'il prend la première place. Quand Dieu est second, l'argent règne. Quand Dieu est premier, l'argent sert. L'argent sert. Le point central, c'est vraiment la croix. On doit revenir à Jésus finalement. Le christianisme ne commence pas par ton don. Parce que tu donnes. Il commence par le don de Dieu. C'est Jésus qui s'est donné, qui a offert son Fils unique. Dieu n'a pas donné une somme d'argent à tous. Tiens, on parlait il y a quelques années du revenu minimum qu'il faudrait donner à tous, 4000 francs pour qu'ils vivent, une somme minimum. Enfin, je ne sais pas où on aurait trouvé cet argent, mais enfin, bref. Voilà. Non, Dieu n'a pas donné une somme d'argent, mais il a donné son Fils. Son Fils, il s'est donné lui-même. Alors la question n'est plus, est-ce que je dois donner 10%? Mais finalement, qui est mon Seigneur? Qui est mon Maître? Le Nouveau Testament ne remplace pas la dîme par une autre loi, mais par la générosité guidée par la grâce et par l'Esprit de Dieu. Dans 2 Corinthiens 9, 7 et suivant, vous voyez ce texte aussi, il est écrit, il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé. Il n'y a pas de question de pourcentage. Non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Ça change de paradigme. Ça change. Verset 9. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres, sa générosité dure pour toujours. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qu'il nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise du fruit. Finalement, on a des biens afin qu'on soit généreux, nous dit ce texte. Verset 11. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettons de votre part. Finalement, si on a des richesses, c'est pour les partager. Ce n'est pas pour avoir une meilleure maison, une meilleure voiture. Alors oui, tu n'es pas contre qu'on se loge, hein, évidemment. Mais en premier lieu, c'est aussi pour exercer la générosité. Verset 12. « Car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Impressionnés par la valeur de ce service, beaucoup rendront gloire à Dieu pour l'obéissance, témoignant de votre fidélité à la bonne nouvelle de Christ, et ils lui rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les autres. » Alors c'est dans un contexte spécial d'une offrande spéciale, mais je crois qu'on peut l'appliquer aussi pour l'Église d'aujourd'hui. Dans la loi avec Moïse, la dîme correspondait à un dixième, la dîme dixième, précis des récoltes ou des revenus, un cadre légal très clair pour Israël. Lévitique 27, 30 et 32 nous dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête sur dix, de tout ce qui se passe, qui passe sous un bâton de berger, sera consacrée à l'Éternel. » Ici, c'était un commandement précis, un minimum obligatoire, parce qu'il participait au soutien des Lévites, des nécessiteux, du culte, etc. dans le Nouveau Testament, le don libre l'emporte sur l'obligation. Le Nouveau Testament ne reprend pas la dîme comme un commandement à observer légalement, mais il invite à donner librement avec un cœur joyeux. De Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça signifie que la dîme n'est pas nécessairement un minimum fixe, mais un repère souvent utilisé pour orienter la générosité. Et à mon avis, la générosité chrétienne, selon ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, va au-delà de la dîme. Désolé. Mais selon ma compréhension de ces textes et de tout le Nouveau Testament, c'est plus une obligation, mais c'est finalement, là, c'est plus un dixième qui appartient à Dieu, mais c'est tout qui est à Dieu. Et la question se pose, de quoi est-ce que j'ai besoin pour vivre, finalement? Et si on reçoit des richesses, eh bien, c'est pour être encore plus généreux. Paul encourage à une générosité abondante qui dépasse parfois de beaucoup ce simple dixième parce qu'elle reflète l'amour et le sacrifice. J'ai entendu, alors j'ai pas vérifié, peut-être c'est une fake news, quelqu'un qui avait un revenu incroyable, millionnaire, milliardaire, j'en sais rien quoi, très riche, lui il avait décidé de garder le 10% pour vivre parce que ça lui suffisait et il donnait le 90%. J'ai pas vérifié, mais en tout cas, je suis pas à ce moyen-là. Mon salaire correspond pas à ça pour vivre. Mais enfin, bref, 2 Corinthiens 8. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises macédoines. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, on fait preuve d'une très grande générosité. Tiens, là, ils sont extrêmement pauvres et ils sont extrêmement généreux. Verset 3, ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà. J'en suis témoin spontanément. Et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, font partie du peuple saint. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Vous imaginez, ils suppliaient de pouvoir donner. Waouh ! On rêve de ça. Hein ? Vous avez peut-être lu dans la lecture continue, dans l'Exode, finalement ils ont dit « Arrêtez, donnez-en plus, il y en a assez. » Vous avez peut-être remarqué ça dans votre lecture cette semaine. Ça nous a frappé aussi parce que voilà, on étudie un petit peu plus ces textes. Ben là aussi, on voit dans 2 Corinthiens 8, finalement, des gens qui supplient de participer alors qu'ils sont nécessiteux eux-mêmes. Du coup, la dîme peut être un point de départ sage pour beaucoup, mais le cœur chrétien est appelé à donner davantage par amour et par responsabilité. La vraie mesure, ce n'est pas une règle imposée, mais l'attitude de ton cœur, que chacun donne avec joie, sans contrainte. Alors, je vais conclure. Aujourd'hui, Dieu ne nous pose pas une question financière, il nous pose une question spirituelle. Pas combien donnes-tu, mais finalement, qui est ton Seigneur ? Qui est ton Maître ? Sous la loi, on donnait par obligation. Sous la grâce, on donne par révélation. Parce que Dieu nous a inspirés. Parce que Dieu nous a conduits. Sous la loi, on craignait la malédiction, la foudre de Dieu. Et il ne fait pas bon tomber sous le jugement de Dieu. Hein. Sous la grâce, on vit dans la bénédiction acquise à la croix. Dans le livre de Malachie, Dieu disait « Revenez à moi ». Et aujourd'hui encore, il dit « Vrai problème, ce n'est pas l'argent. Le problème a toujours été le trône de notre cœur. » Pour qui ou pourquoi vis-tu finalement dans cette vie ? Pour qui ? Dans les actes des apôtres, l'Église ne donnait pas sous la pression, elle donnait sous l'onction. Ces textes que j'ai lus sont assez incroyables. Et quand elle donnait, la puissance, la faveur reposait sur les âmes. Et ça permettait aussi le salut du plus grand nombre. Pourquoi ? Parce que les cœurs transformés libèrent une Église puissante. Dieu ne veut pas financer un système. On n'est pas en train de parler de financer un système, il veut manifester son royaume. Il ne cherche pas des donateurs religieux qui vont donner par obligation ou comme ça, autant pas donner dans ce cas-là. Et demander à Dieu qu'il nous donne une révélation. Il cherche vraiment des adorateurs remplis du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie. Quand Jésus est vraiment Seigneur, ton argent ne te possède plus, la peur du manque ne te domine plus, l'avarice ne contrôle plus ton cœur, tu deviens libre, libre de donner, libre d'aimer, libre de servir. Peut-être que ce matin, le Saint-Esprit veut briser la peur financière chez plusieurs. Et c'est des peurs réelles. On a parlé aussi de ces gens qui suppliaient de donner alors qu'ils étaient eux-mêmes dans le besoin. Mais cette peur financière, là aussi, Dieu veut nous en détacher. Parce qu'il veut aussi dire, mais ne crains pas. Il veut aussi régner, il veut aussi faire des miracles. L'attachement excessif aussi, la méfiance, l'indépendance. Proverbe 11, 24 dit « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, l'âme qui arrose sera lui-même arrosée. » On ne vit plus sous la mentalité de la loi, mes frères et sœurs, mais on vit dans la dynamique de la grâce. La grâce. La grâce, c'est plus une question de 10%, c'est une question de 100%. En fait, Dieu veut le 100% de notre vie. Le 100% de notre vie, il veut régner sur le 100% aussi de nos finances. 100% de notre cœur, 100% pour Jésus. Dieu ne cherche pas ton portefeuille, il cherche ton obéissance. Et si ta vie lui appartient, tout le reste va s'aligner. Tout le reste. Si Jésus est Seigneur, tes priorités changent, tes finances s'alignent, ta générosité devient naturelle. Plus de chantage aussi. Si je ne suis pas content avec telle ou telle décision, tel ou tel pasteur, tel ou tel conseil, alors je vais retenir. Non. Ça change. Qu'on soit content ou non, l'argent ne sera plus une tension. Viendra un canal, un serviteur, jamais un maître. Combien de dégâts ça fait dans les familles? Je vous ai dit, moi, je n'ai pas connu la plupart de mes cousins parce que voilà, il y avait eu un frère qui s'était approprié toute la ferme, tous les biens, tous les trucs. Pas connu mes oncles jusqu'à leur décès et qu'on aille à leur enterrement. Pour la plupart, parce que l'argent avait détruit aussi des relations. Et dans des églises aussi. Combien des gens se chamaillent. Que notre église ne soit pas une église qui retient, mais une église qui libère, qui finance la mission où la puissance de Dieu se manifeste aussi. Lorsque l'adoration est vraie, la générosité devient naturelle. Et lorsque la générosité est inspirée par la grâce, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. 1 Corinthiens 16, et je termine avec ça. Soyez vigilants. Demeurez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous, que tout se fasse avec amour. Même nos finances, même nos dons, que tout se fasse avec amour. Avec amour. Et la progression biblique montre que Dieu cherche plus qu'un pourcentage. Il cherche un cœur reconnaissant, une confiance en lui et une générosité authentique. La dîme, les offrandes et les dons deviennent alors une expression d'adoration. On adore Dieu également par notre porte-monnaie, par nos ressources, par nos biens, parce qu'on reconnaît que Dieu est Seigneur et Maître sur toute notre vie. Sur toute notre vie. Amen. Que Dieu nous bénisse, hein, c'est défiant. Peut-être certains sont bousculés, peut-être certains sont fâchés, peut-être pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais placez-vous devant le Seigneur. Examinez. La Bible nous dit d'examiner toutes choses, retenir ce qui est bon. Alors ça ne veut pas dire retenir ce qui me dérange. Ce qui est bon, c'est ce qui est conforme à la parole de Dieu. Et placez-vous devant Dieu, priez aussi. Peut-être que Dieu veut aussi nous changer notre cœur, notre relation aussi avec ces biens matériels. Ce Dieu de ce monde, Mammon, L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Amen. Je vais prier. Ben, Seigneur Jésus, merci de nous aider tous et toutes dans ce domaine. C'est vrai que ta parole en parle beaucoup. Nous-mêmes, on est souvent mal à l'aise pour en parler. Mais Seigneur, c'est vrai que souvent, ça révèle aussi l'état de notre cœur, l'état de notre dépendance, Seigneur, à toi. Seigneur, aussi la confiance, la confiance que tu vas pourvoir. Dans ce monde, c'est vrai, où on nous pousse à l'épargne, et c'est normal, on nous pousse à ceci, on nous pousse aux assurances, on nous pousse, et c'est bien, bien normal, Seigneur, on a de la peine aussi à placer notre confiance en toi. Seigneur, aide-nous à pas juste placer notre confiance dans des choses matérielles, Seigneur, mais à placer notre confiance en toi. Seigneur, guide-nous, conduis-nous, Seigneur, aide-nous à progresser aussi dans ce don de la libéralité, de la générosité. Seigneur, c'est vrai, je confesse, je n'ai pas souvent prié pour recevoir ce don de la générosité ou de la libéralité. Mais Seigneur, là aussi, tu veux m'aider à progresser. Et Seigneur, aider aussi mes frères et sœurs à progresser. Parce que Seigneur, tu veux qu'on se prive d'aucun don. Seigneur, tu veux pourvoir ton Église de tous les dons. Seigneur, eh bien, accorde-nous ta grâce. Visite-nous, Seigneur, par la puissance de ton nom, par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.